Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 5 février 2021. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. 34e sommet de l'Union africaine ce week-end, la pandémie de Covid-19 dominera les travaux. Le président Joe Biden, dans ses premières déclarations publiques sur l'Afrique, promet de reconstruire le partenariat des États-Unis avec le continent. En RDC, le président du Sénat, proche de l'ex-président Joseph Kabila, rend le tablier, ouvrant la voie à la nomination d'un pro-Tshisekedi à la tête de la chambre haute du Parlement. Au Bénin, la commission électorale a reçu une vingtaine de candidatures, dont celle de Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les États-Unis entendent renouer avec l'Afrique et le monde. Telle est la substance d'un message du président américain Joe Biden à l'Union africaine à la veille du 34e sommet de l'organisation continentale. Les précisions de Nanit Talani.
Adressant les vœux du peuple américain à l'Union africaine, le président Biden a fait un bref état des lieux des relations internationales.
This past year shown us how interconnected our world is.
Cette dernière année a montré à quel point notre monde est interconnecté et comment nos destins sont liés. C'est la raison pour laquelle mon administration s'est engagée à reconstruire notre partenariat dans le monde et à se réengager avec des institutions internationales comme l'Union africaine. Nous devons tous travailler ensemble pour faire progresser notre vision commune d'un avenir meilleur, un avenir de commerce et d'investissement croissant qui favorise la prospérité de toutes nos nations, un avenir qui fait progresser la paix et la sécurité pour tous nos citoyens.
Le président Biden a appelé l'Afrique et le monde à investir dans les institutions démocratiques et la promotion des droits humains pour tous. Il a suggéré quelques pistes d'action.
Pour atteindre cet avenir, nous devons également faire face aux graves défis auxquels nous sommes confrontés, notamment investir davantage dans la santé mondiale, vaincre Covid-19 et travailler pour prévenir la détection et la réponse aux futures crises sanitaires et établir des partenariats avec les CDC africains et d'autres institutions pour faire progresser la sécurité sanitaire, relever nos ambitions climatiques et faire en sorte que les pays en développement puissent atténuer et s'adapter aux impacts climatiques qui causent déjà de la douleur et s'engager dans une diplomatie soutenue en relation avec l'Union africaine pour résoudre les conflits qui coûtent des vies sur tout le continent africain. Rien de tout cela ne sera facile, mais les États-Unis sont maintenant prêts à être votre partenaire dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel.
Le chef de l'exécutif américain a dit qu'il espère rencontrer en personne les leaders africains à la prochaine occasion.
Ce sera donc un sommet chargé pour l'Union africaine ce week-end. Vaccins et stratégies sanitaires contre la pandémie de Covid-19 seront au cœur de cette réunion annuelle de l'UA qui se tient exceptionnellement en visioconférence ce samedi et dimanche et doit également aborder plusieurs conflits relégués au second plan par le virus. Le point avec Jacques Aristide.
En ligne pour éviter toute contamination, le sommet doit démarrer demain par une intervention du chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa sur les efforts actuels du continent face à la pandémie. Fin janvier à Davos, le président sortant de l'Union africaine avait fustigé les pays riches qui accaparent les vaccins contre le coronavirus. L'Afrique a pour l'instant été relativement épargnée par la maladie, mais de nombreux pays sont actuellement confrontés à une seconde vague préoccupante, surtout après l'émergence des nouveaux variants, et ont du mal à accéder aux vaccins. La pandémie n'éclipse pas pour autant les questions sécuritaires qui agitent le continent. Le conflit au Tigré secoue depuis 3 mois l'Éthiopie qui abrite le siège de l'UA et le Sahel continue de s'enliser dans les crises. Face à ce double enjeu sanitaire et sécuritaire, les élections internes de l'UA s'annoncent déterminantes. Moussa Faki Mahamat, ancien premier ministre du Tchad, est seul candidat à sa succession à la tête de la commission, l'organe exécutif de l'Union. Et c'est le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui va prendre le relais de Cyril Ramaphosa comme président de l'UA pour 2021, tandis que la RD Congo connaît elle-même de multiples crises.
Un autre développement majeur au Parlement congolais, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, un partisan de l'ancien président Joseph Kabila, a présenté ce vendredi sa démission sous la pression du camp du chef de l'État Félix Tshisekedi en pleine crise politique. Le point avec Eddie Isango.
Seul Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat et proche du président Félix Tshisekedi, reste à son poste. Les sénateurs présents à la plénière ont rejeté la pétition qui les visait au motif que ses signataires, membres du camp Kabila, n'étaient pas présents. Mais tous les autres membres du bureau ont remis des lettres de démission au bureau provisoire constitué sur base d'âge. Le président sortant, Thambwe Mwamba, a reconnu avoir perdu la confiance de certains de ses pairs, mais a réfuté les accusations à son encontre. Il a sur son dos deux dossiers judiciaires sur la gestion des finances du Sénat. L'inspection générale des finances avait même donné 5 jours au bureau mercredi pour justifier la gestion de 2019 à la fin de 2020.
Au Bénin, les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril ont déposé leur candidature à la CENA, la Commission électorale nationale autonome. L'instance conduite par Emmanuel Tshondo a reçu au total 20 dossiers, dont celui du président Patrice Talon, candidat à sa propre succession. On y retrouve plusieurs membres de l'opposition et des candidats peu connus sur la scène politique. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
C'est une phase importante du calendrier électoral qui a été clôturé ce jeudi. De 5 les premiers jours, ils sont finalement 20 à avoir déposé leur dossier dans les délais fixés. Parmi eux, le président sortant, des acteurs connus de la scène politique, mais également de nombreux indépendants et inconnus. C'est le cas de Eudewe Souaholou, un Béninois vivant aux États-Unis, qui confie avoir posé sa candidature pour restaurer la justice au Bénin et permettre aux jeunes de prendre leur destin en main. Alors que l'opposition avait donné l'impression d'être unie, la phase de dépôt des candidatures a révélé une opposition plus que jamais désunie. En dehors des forces coriques pour un Bénin émergent, FCBE, le collectif de l'opposition au président Patrice Talon, réuni au sein du Front pour la restauration de la démocratie, n'a pas pu parler le même langage. Le collectif n'a pas voulu du professeur de droit Joël Aivor, mais a opté pour Réki Amadougou, ancienne ministre de Boniaï et ministre conseiller spécial du président togolais Faure Yassingbé. Déjà, les récriminations fusent de part et d'autre pour dénoncer la confiscation des dossiers de parrainage par la mouvance présidentielle, une plainte que réfute la colistière du président Patrice Talon. Les 20 candidats enregistrés ont soin 12 heures pour réunir les pièces manquantes de leur dossier au risque de se voir retirés de la course à la présidentielle. La Sénat devra d'ici le 15 février au plus tard dresser la liste provisoire des candidats retenus avant la publication de la liste définitive le 22 février. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire dit avoir pris des dispositions pour faire face à quelque menace que ce soit. Affirmation du porte-parole du gouvernement après les déclarations du patron du renseignement extérieur français sur l'expansion vers le golfe de Guinée d'Al-Qaïda au Sahel. Nous constatons tout simplement qu'il y a une annonce qui vient enfoncer une porte déjà ouverte. Nous étions suffisamment alertés depuis plusieurs années sur la menace terroriste que subit notre sous-région, a déclaré Sidi Touré, ministre ivoirien de la communication, à l'issue du Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire a été touchée par une attaque djihadiste en mars 2016 dans la ville balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan, faisant 19 morts. L'Érythrée a qualifié vendredi de fausses les allégations américaines sur l'implication de troupes érythréennes dans le conflit dans la région éthiopienne du Tigré. Vendredi sur Facebook, l'ambassade américaine à Asmara a fait part de sa grave inquiétude concernant des informations crédibles sur des violations des droits humains commises par les forces érythréennes et d'autres acteurs au Tigré et réitère l'appel lancé par Washington à Asmara à retirer ses forces du Tigré immédiatement. La Banque centrale du Nigeria a demandé vendredi aux banques de fermer les comptes utilisant des crypto-monnaies, rappelant qu'elles ne sont pas autorisées dans le pays, pourtant deuxième plus grand marché de Bitcoin au monde. En 2017, le Nigeria avait affirmé que les monnaies virtuelles n'étaient pas légales dans le pays, mais cette annonce n'avait pas empêché une partie de ses habitants d'investir massivement dans ces monnaies jusqu'ici tolérées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le Sénat américain a adopté ce matin une motion budgétaire ouvrant la voie au futur plan d'aide à l'économie de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden, qui sera la première grande mesure législative du nouveau président. À l'issue d'une nuit de débats marathon dans l'hémicycle, le vote s'est conclu par 51 voix contre 50 entre le camp démocrate et le camp républicain, le suffrage décisif étant apporté par la vice-présidente démocrate Kamala Harris, comme le veut la Constitution. Ce vote a ouvert un chemin aux démocrates pour que ce plan soit approuvé sur la base d'un vote à majorité simple, limitant ainsi les possibilités de blocage par les républicains, dont beaucoup s'insurgent contre le coût des mesures envisagées. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
La Zambie a demandé une restructuration dans le cadre de l'initiative de suspension de la dette du G20 pour les pays les plus pauvres du monde. Le pays riche en cuivre, qui a vu sa dette extérieure grimper à près de 12 milliards de dollars l'an dernier, a manqué deux paiements d'intérêt au cours des trois derniers mois. À la fin de 2020, il n'a pas payé 42,5 millions de dollars d'intérêt dus sur un eurobond. Et le 30 janvier 2021, il a sauté un paiement de 56,1 millions de dollars sur une autre obligation. Le Soudan du Sud, la BAD et la FAO ont signé des protocoles de 14 millions de dollars pour stimuler les marchés agricoles sud-soudanais. Pour terminer, dans sa nouvelle stratégie du genre pour la période 2021-2025, la Banque africaine de développement veut transformer les secteurs clés de l'Afrique en terrain d'opportunités accessibles à tous. Les femmes, les filles, les hommes et les garçons, quelle que soit leur origine, bénéficieront d'un accès et d'un contrôle égaux sur les ressources productives et bénéficieront d'infrastructures et de services de soutien pour s'épanouir.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le gardien du but de l'Ajax d'Amsterdam, André Onana, est suspendu un an par l'UEFA pour infraction aux règles antidopage. C'est ce qu'annonce le club sur son site internet ce vendredi. Des traces de furosémide endiurétique ont été retrouvées dans les urines de l'international camerounais de 24 ans le 30 octobre dernier lors d'un contrôle inopiné, précise le club dans un communiqué. Ajoutant que le joueur et le club allaient faire appel de la sanction devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. La suspension est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football national et international, ajoute le communiqué. Selon le club, le 30 octobre dernier, Onana s'est senti mal et a pris un médicament initialement destiné à son épouse. Selon le club, le lacimac, un diurétique et hypotenseur, n'améliore pas les performances d'un sportif, raison pour laquelle le club ne s'attendait pas à une suspension ferme. En football toujours, Al Ahly s'est qualifié pour les demi-finales du Mondial des clubs qui se déroule à Doha au Qatar. Le club égyptien, 9 fois vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, a dominé le champion du Qatar Al Dubaï 1-0 grâce au seul but marqué en première période par Hussein El Shaba à la 30e minute. Al Ahly, dont c'est l'entrée en lice et qui participe pour la 6e fois au Mondial des clubs, sera opposé lundi en demi-finale au grand favori de la compétition, le Bayern Munich, champion d'Europe. Bien avant, les Mexicains de Tigres se sont qualifiés pour les demi-finales en battant les Sud-Coréens d'Ulsan Hyundai 2-1 grâce à un doublé du Français André-Pierre Gignac. Les Tigres affronteront dimanche en demi-finale les Brésiliens de Palmeiras, récents vainqueurs de la Copa Libertadores. La finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations opposera dimanche le tenant du titre, le Maroc, au Mali. Les Aigles et les Lions de l'Atlas s'affronteront en finale dimanche donc à 19h à Yaoundé. Le Cameroun et la Guinée se rencontreront demain à Douala pour la 3e place. Ce match se disputera sans le joueur Yannick Nieng, exclu de l'équipe pour indiscipline caractérisée à l'issue de la demi-finale et qui a quitté le groupe ce matin sur la demande de l'entraîneur. Et pour terminer, en NBA, les Lakers, grâce à LeBron James, qui compte désormais plus de paniers que Wilt Chamberlain, ont renversé une situation compliquée face à Denver hier soir. Elle a fait une démonstration de force en seconde période, 68 à 35 points, pour s'imposer 114 à 93 en banking, menant ses troupes à la victoire. James a réussi 27 points, 10 rebonds, 10 passes, soit le 96e triple-double de sa carrière, son 8e à 35 ans passés, égalant la marque de Jason Kidd. La surprise hier soir est venue de Philadelphie, défaite par les Blazers, pourtant privés de ses stars, 107 à 121 pour Portland, défaite de Memphis, 103 face à Houston, 115, défaite également d'Atlanta, battue par Utah Jazz, 112 à 91, et enfin les Golden State Warriors ont battu Dallas, 147 à 116.
Merci Bagassi. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Tchad, le MPS, le parti au pouvoir, tient son congrès demain samedi, congrès à l'issue duquel le président Déby sera probablement investi candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. La Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'Union des syndicats du Tchad et plusieurs autres organisations de la société civile disent non à un sixième mandat d'Idriss Déby. Le parti, les transformateurs et quelques mouvements citoyens maintiennent leur marche prévue demain samedi, même si elle a été interdite. Suivant quelques citoyens interrogés à N'Djamena par André Kolmajingar.
Moi, je suis pour. La police va nous bousculer, bien sûr, mais il ne peut pas tuer tout le monde. On n'est pas militaire, on devient. Donc nous aussi, là où nous sommes, là, on peut même devenir des militaires. On est des autorités demain aussi. S'il est fatigué, il n'a qu'à laisser la place aux autres.
Moi, je suis contre cette situation. Les partis au pouvoir, comme le marshal du Tchad, son excellence Idriss Déby Itno, il est toujours aux côtés de la jeunesse. Nos papas, nos mères, ils ont vécu des guerres. Et maintenant, le fait de faire des troubles, là, on n'est vraiment pas d'accord. Moi, je suis leader des jeunes. J'ai conseillé à mes frères jeunes, il faut qu'on évite les trucs de trouble.
Les gens en ont assez marre. Il faut que les gens s'expriment pour mieux se défouler. Moi, je vois pas le pourquoi les gens doivent interdire la marche de demain. C'est pas du tout normal. Prenons l'exemple des jeunes qui ont fini, qui sont là en essence d'intégration, par exemple. On ne tient même pas compte d'eux. Il y a l'école qui ne marche pas. Nos enfants sont là à la maison. Donc, apparemment, le pays est mort. Encore, ils commencent par dire que les anciens, c'est parce qu'ils sont fatigués, ils sont là à la maison. Tu vois, il y a des paroles qui font mal, très mal. Il faut quand même qu'on change un peu. C'est une marche pacifique, hein. À moins c'est que les forces de l'ordre eux-mêmes là brutalisent les gens.
Moi, je soutiens vraiment, je soutiens cette marche. Nous sommes des jeunes. Le président avait dit plusieurs fois qu'il est pour les jeunes, qu'il est en train d'investir pour les jeunes. Maintenant, à notre grande surprise, pourquoi il nous écarte? On a fréquenté, on a fait l'école. Normalement, il devait nous donner le boulot et le mandat. Quand il a gouverné et que le mandat est déjà terminé, il devait laisser quand même un peu de place aux jeunes pour que les jeunes gouvernent un peu. Mais finalement, ils nous écartent. C'est pas une bonne manière. Moi, je soutiens la marche. Il faut que le gouvernement nous laisse manifester nos droits. Je suis là, je serai là. Oui. Je n'ai pas peur. On doit mourir pour une bonne cause. Ça, je suis pour.
Pour l'instant, je pense que faire la marche du moment où c'est déjà interdit par le gouvernement, c'est pas une bonne chose. Donc, nous devons quand même respecter la décision du gouvernement. Parce que manifester au Tchad, certaines personnes pensent que c'est sortir, taper sur des gens, faire des trucs. Donc, vous-même, vous connaissez, quand on parle d'une manifestation ou d'une marche pacifique au Tchad, donc, pour l'heure, c'est pas encore le moment. Tout ce que je demande en tant que jeune, c'est que les partis politiques doivent s'asseoir ensemble avec le gouvernement pour discuter sur beaucoup de choses encore. Donc, j'en appelle seulement au niveau de dialogue, mais je ne pousse pas trop l'idée de la marche pacifique parce que c'est pas encore prêt pour le pays. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en colère.
On a besoin de la vraie justice. Cette justice à laquelle on vit maintenant, c'est une justice un peu handicapée. Donc, la marche de transformateurs, c'est une marche qui doit avoir lieu. Bien avant Masra même, je serai la première personne et j'invite les jeunes qui sont conscients de nous rejoindre demain à l'heure indiquée, au lieu indiqué, parce qu'on ne peut pas continuer à être sous cette dictature qui a pris le manteau de la démocratie.
Au Burundi, les récentes concertations entre les nouvelles autorités et les médias suscitent un brin d'espoir. La situation de la presse demeure inquiétante dans le pays. La plupart des radios indépendantes locales et internationales restent fermées. Plusieurs journalistes ont été forcés à l'exil.
Pour faire le point, Nani Talani a joint Innocent Mouzi, directeur de la radio Télé Renaissance Burundi, qui vit actuellement en exil à Kigali, au Rwanda.
La situation des médias au Burundi est à l'image de tout le reste du pays, c'est un désastre absolu. On ne peut plus travailler en toute liberté, il y a plus de 100 journalistes qui ont fui le pays, qui sont en exil parce qu'ils ont fui la mort, l'emprisonnement, les tortures. Certains d'entre eux sont morts au pays, d'autres sont passés par la case de torture. Ceux qui sont restés au pays ne peuvent pas exercer librement, ils sont sous une emprise quasi totale du Conseil national de la communication. D'ailleurs, si la presse a été changée pour être rendue plus répressive, la liberté d'expression est pratiquement inexistante. Il y a des milliers de gens qui sont toujours en prison. Suite aux manifestations de 2015, ils avaient rejeté le troisième mandat de Pierre Vizan. Des acteurs politiques par dizaines qui sont en exil, et des gens de la société civile qui ont été interdits, qui sont pour la plupart en exil, la société civile indépendante, je veux dire.
Les autorités actuelles avaient prévu une concertation avec les médias locaux. Qu'en est-il résulté?
L'annonce a été faite par le président de la République. Le Conseil national de la communication a tenu une réunion de prise de contact avec ceux qui sont au Burundi. Et pour l'instant, il n'y a pas de suite. J'ai entendu dire qu'ils ont demandé aux différents médias d'interdire jusque-là de produire des attestations de non-poursuite, ce qui signifie que les médias indépendants qui ont été attaqués, brûlés, détruits, et qui sont d'ailleurs toujours occupés par la police, sur l'ordre du procureur de la République, sont toujours dans cette situation-là. Donc, vous attendez de voir ce que ça va donner.
Il existe depuis 1992 un Conseil national de la communication chargé de veiller à la liberté de la presse. Que fait ce conseil pour défendre les journalistes et la liberté de la presse?
Non, le conseil est sous l'emprise totale du gouvernement. En fait, il est utilisé pour servir des moyens de répression sans que l'État soit très visible. Mais tout le monde sait que quand il commence par consulter le gouvernement, donc c'est aussi simple que ça. Cela dit, après l'annonce des condamnations à la perpétuité, viennent près de dizaines d'activistes de société civile, des journalistes aussi et des responsables des médias indépendants. On ne sait pas très dans quelle direction va le gouvernement. Donc, quand on continue sur la communication, il n'a vraiment pas d'autonomie de décision quelconque. Il dépend de ce qu'on lui dit de faire.
Comme vous l'avez dit vous-même aussi, beaucoup de journalistes burundais sont en exil. Vous-même aussi, vous ne vivez plus au Burundi. Est-ce que vous comptez rentrer un jour au pays?
J'espère plus, parce que personne ne peut pas l'espoir de retourner chez lui, de retrouver les siens, pour ceux qui ont des familles là-bas, de trouver les lieux où on a grandi. Nous avons tout l'espoir de retourner chez nous quand la situation aura changé. Parce que je dis, c'est une situation où un président des services de renseignement et autres vous enlève au vieux aussi de tous. Vous disparaissez, on peut retrouver un cadavre quand il y a de la chance de le retrouver, dans une rivière ou dans un caniveau, etc. Ça arrive tous les jours encore, je dis. Par exemple, quand c'est le jour, je dis. Donc c'est un pays qui est vraiment effrayant en réalité. Et les gens ont l'impression que c'est la paix, mais c'est la paix de la tyrannie absolue.
Comment voyez-vous l'avenir de la presse au Burundi? Est-ce qu'il y a un espoir que les choses vont s'améliorer un jour?
L'amélioration de la situation de la presse dépendra de l'amélioration de la situation politique. Si on retourne vers l'accord de réconciliation qui avait été signé sous les yeux de Mersilera, l'accord de paix d'Arusha, je pense qu'on peut s'arranger. La presse ne s'arrangera qu'on réduit à des meilleurs sentiments, à un meilleur esprit, celui de réconcilier les Burundais, de reconstruire un état de droit. Il n'y a qu'à cette condition-là, ce n'est pas mission impossible, on va finir par y arriver.
C'était Innocent Mouzi, directeur de la radio-télévision Renaissance du Burundi, joint à Kigali, au Rwanda.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans son premier discours de politique étrangère, le président américain Joe Biden a affiché sa volonté de rompre avec la politique de Donald Trump et de resserrer les liens avec les alliés traditionnels des États-Unis. Dans un message vidéo adressé à l'Union africaine qui tient son 34e sommet ce week-end, M. Biden s'est engagé à reprendre le dialogue avec l'organisation continentale dans un respect mutuel. Nathalie Barge a joint Marissa Scott-Torres, porte-parole du département d'État basé à Johannesburg.
L'administration Biden-Harris remet la diplomatie au centre de la politique étrangère des États-Unis. Donc, dans son discours au département d'État, il a dit que l'engagement international des États-Unis sera fondé sur les valeurs américaines en partenariat avec nos alliés et axé sur le renforcement des institutions internationales. Et il y a un vrai changement. L'administration de Biden se démarque l'administration de Trump, c'est tellement différent. Bien sûr, nous sommes toujours au début d'administration de Biden et Harris, mais il a déjà dit des choses pour envoyer un message clair au reste du monde. Et ça, c'est que l'Amérique est de retour.
Je
du fait que l'équipe de Joe Biden entend afficher un respect mutuel envers l'Afrique et montrer son engagement sur les questions de démocratie, de sécurité et d'économie. Pas d'annonce très concrète pour le moment, mais nous savons que la politique extérieure de Joe Biden, on attend une stratégie pour l'Afrique. Donc, nous allons voir le respect mutuel et ça, c'est ce que les pays africains veulent maintenant du président américain.
Alors, il a mis l'accent notamment sur la question de la santé, hein, la question de la crise sanitaire avec la Covid, et il a parlé des CDC africains. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une relation particulière qui pourrait être mise en place, ou qu'il est déjà, entre le CDC africain et les CDC aux États-Unis?
Avec le CDC américain et aussi le CDC africain, il y a un partenariat qui déjà existe de formation, de quelques webinaires et des choses comme ça. Et je suis sûre qu'on va voir plus de ça dans l'avenir proche. Mais cette semaine, le président a déjà déployé une augmentation significative des ressources affectées à la lutte contre la COVID-19.
Il a mis l'accent notamment sur la question de la démocratie et des droits humains. Quels sont les pays qu'on pourrait citer en Afrique qui seraient, on va dire, en ligne de mire des États-Unis?
C'est difficile de dire maintenant, comme je dis, ils sont en train de concrétiser le stratégie pour l'Afrique. Et nous n'avons pas encore le sous-secrétaire d'État pour l'Afrique non plus. Donc, je sais qu'il y aura une continuité avec ce que l'ancien président Barack Obama a fait. Le nouveau président américain a déjà promis un sommet avec tous les présidents des États africains. Mais nous savons qu'il y a déjà quelques problèmes, des relations tendues avec quelques pays. Donc nous attendons les politiques actuelles, les stratégies pour l'Afrique.
Voilà, c'était Marissa Scott Torres, porte-parole en français du département d'État américain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ainsi que les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et le haut représentant de l'Union européenne sont unis pour condamner l'arrestation et la détention à motivation politique d'un éminent chef de l'opposition russe, Alexei Navalny. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé à la libération immédiate et inconditionnel de M. Navalny, qui a été arrêté en Russie peu après son retour d'Allemagne. Dans une déclaration écrite, les membres du G7 ont également exprimé leur profonde inquiétude face à la détention des milliers de manifestants pacifiques et des journalistes et ont appelé la Russie à respecter ses obligations nationales et internationales et à libérer les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé leur droit de rassemblement pacifique le 23 janvier. La répression violente par les forces de police du droit des individus d'exprimer leur opinion est inacceptable. Ces événements confirment un schéma négatif continu de rétrécissement de l'espace pour l'opposition, la société civile, les défenseurs des droits humains et les voix indépendantes en Russie, a souligné le communiqué du G7. M. Navalny a failli être tué en août 2020 lors d'une tentative d'assassinat à l'aide d'un agent neurotoxique du groupe Novichok, une arme chimique développée par l'Union soviétique. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont réaffirmé que toute utilisation d'armes chimiques est inacceptable et contrevient aux normes internationales contre l'utilisation de telles armes. Nous exhortons à nouveau les autorités russes à enquêter et à expliquer de manière crédible l'utilisation d'une arme chimique sur son sol à la lumière des obligations de la Russie au titre de la Convention sur les armes chimiques. L'utilisation d'armes chimiques contre un politicien de l'opposition ainsi que la dernière détention de M. Navalny sapent encore davantage la démocratie, les voix indépendantes et la pluralité politique en Russie. Le G7 a exhorté la Russie à s'acquitter de ses obligations au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à garantir les droits que ce pacte énonce, y compris le droit à la liberté d'expression à tous les individus se trouvant sur son territoire et sous sa juridiction.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.